Il s'est passé ici des choses, comme vous savez, importantes. Et ces choses importantes sont celles-là même dont nous voulons qu'elles surgissent partout. C'est-à-dire que par notre propre expérience ici à Cerisy, nous avons réalisé ce haut pays difficile d'esprit, d'amitié, que nous offrons autour de nous dans le monde, très souvent dans le désert, comme vous savez. Mais ici, la chose est réalisée. Donc, nous pouvons la comprendre intuitivement et nous pouvons en parler valablement. Nous sommes, comme on disait l'autre jour, nous sommes autorisés par notre propre expérience à dire ce que nous allons dire et proposer. Mais si nous pouvons le faire et si nous avons pu le vivre, reconnaissons tout de même que c'est grâce au colloque. Si nous voulons être complets pour comprendre une situation existentielle, nous devons analyser rapidement, de 3 demi-phrases, la place où nous sommes et ce qui a rendu possible l'expérience dont je parle. Et la place où nous sommes, c'est un château, c'est un colloque. C'est pourquoi je voudrais d'abord, dans un premier temps, fût-il bref, il sera pour moi important, rendre hommage à 3 ou 4 personnes, clés des piliers. D'abord, Edith. Vous voyez où j'en suis, hein ? Edith. S'il n'y avait pas eu l'histoire de Pontigny et de Cerisy, et donc le colloque tel qu'il se présente, c'est-à-dire avec de nombreuses personnes qui viennent en un lieu avec une intention, ça c'est Cerisy. On vient avec notre personnalité, notre richesse, et on vient la présenter à d'autres personnes dont aussi nous attendons. Bien, ça on a compris, mais il faut aussi souligner le fait qu'il s'agit d'une institution. Il s'agit d'une institution qui nous a aidés. S'il n'y avait pas eu cette institution, nous ne nous serions pas réunis, même si nous nous étions réunis à quelques-uns dans un bistrot. Ce n'était pas la même chose qu'une véritable institution qui nous enveloppe. Donc, hommage rendu à Edith Ergonze, sans qui rien n'aurait été possible. Mais bien sûr, rien non plus n'aurait été possible sans Catherine de Gandillac. Catherine de Gandillac, à laquelle je veux rendre hommage pour son travail quotidien, sa présence chaleureuse, et son père, Maurice de Gandillac. Sans Maurice de Gandillac, je ne serais pas là. Un beau jour, au cours de l'oral d'agrégation, j'avais présenté l'épreuve de grec sur Aristote, une petite page d'Aristote. J'y avais été, vous imaginez bien, lamentable. Je sors un petit peu effondré dans la cour de la Sorbonne et Maurice de Gandillac bondit. Il était au jury, il était occupé. Il y avait des étudiants, il était occupé. Il sort, il vient vers moi, il bondit, il me dit: « Vous inquiétez pas, rien n'est perdu, on y va. » Et on y a été. Et puis alors ensuite, Maurice de Gandillac, surtout, et avant même cette expérience, m'a influencé par son œuvre. C'est par lui que je connais un peu Nicolas de Cuse, Plotin. Plotin fondamental, Nicolas de Cuse, les Rénans, et puis quelques autres. Ensuite, moi je suis passé aux Espagnols, à Jean, à Thérèse, etc. Mais je savais, grâce à Maurice de Gandillac, que les mystiques ont des choses à dire. J'ai dû l'entendre parler aussi un petit peu quelque part. Je n'ai pas trouvé de traces dans sa bibliographie, mais je crois bien qu'il en avait parlé de l'utopie. Utopie, mystique, ça a fait du travail en moi grâce à Maurice. Et puis, je suis tombé aussi un jour sur un article de lui dans une revue qui a disparu. Il y avait 1 ou 2 numéros qui ont disparu. La revue s'appelait Existence. Et Maurice de Gandillac qui avait fait un article absolument fondamental sur l'amitié. Tout ça m'a nourri. Et puis hommage, bien sûr, à Véronique. Véronique, c'est Deus ex machina. Hein, c'est elle qui a eu l'idée, d'abord en apparence saugrenue, de faire un colloque autour de mes travaux. Et donc, nous sommes tous là. Et puis, hommage rendu à vous tous. Donc, vous avez remarqué à la fois l'originalité, l'ouverture, la perspicacité intellectuelle, la présence de chacun existentielle. Et c'est dans ce contexte que maintenant je vais essayer de passer à ce que je vais vous dire, mais vous le dire en le rappelant, car vous savez maintenant beaucoup de choses. Alors, je vais d'abord faire quelques citations. N'ayez pas peur. De Novalis. L'Amérique est ici et nulle part ailleurs. De Rilke. L'été vient. De Rilke encore, c'est la dernière. De Rilke encore. Bien des signes nous indiquent que c'est l'avenir qui entre en nous pour se transformer en notre substance. Le propos général de tout mon travail, c'est de réfléchir sur le bonheur. Mais le bonheur, d'habitude, par les classiques ou par un contemporain comme Raymond Poulain, le bonheur est soit abordé avec condescendance, le bonheur, dit Raymond Poulain, c'est le souvenir du bonheur, donc peu de choses, un des beaux-arts, oui, mais là il a l'air de mépriser tout le monde, et ceux qui s'occupent du bonheur, et les beaux-arts qui s'occupent de ce bonheur qui n'est rien qu'un passé. Il y a soit cette approche condescendante et ignorante par rapport au bonheur, soit l'approche traditionnelle des philosophes anciens qui disent on ne peut pas parler et dire si on a été heureux ou non avant l'instant de notre mort, puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc le bonheur, c'est encore avoir été heureux. Contre cela, j'ai voulu creuser la question, comment faire pour faire comprendre et pour vivre le fait que le bonheur soit une réalité présente. Alors il est indispensable que le bonheur soit quelque chose de plus que le concept, quelque chose de plus qu'un raisonnement sur la valeur de notre vie, quelque chose de plus que l'idée suivante, « Ah oui, j'ai réussi ma vie, j'ai fondé une famille, j'ai eu un métier qui m'a satisfait, j'ai fait ceci, cela, oui, j'ai été heureux, j'ai réussi. » Là encore, c'est une réflexion. Il faut au contraire que le bonheur puisse être décrit et atteint comme un vécu. Mais quel vécu peut nous être accessible concrètement comme vécu et peut nous être accessible comme objet de parole, comme objet d'expression, comme quelque chose dont on puisse parler et qu'on puisse vivre, dont on puisse parler et qu'on puisse vivre au présent? Quelle expérience pourra répondre à toutes ces conditions? C'est la joie. La joie est forcément une expérience présente. La joie mobilise forcément la conscience entière. Par conséquent, elle va être le socle et peut-être même le noyau, la substance du bonheur. Mais bien entendu, la joie, nous la connaissons comme les joies. Et les joies sont pauvres. Les joies quotidiennes. Les souffrances, les peines, les joies dont parlent les journalistes pour décrire la vie, nos joies et nos souffrances, tout ça. Oui, bien sûr, nos joies, nos souffrances, c'est superficiel. Les joies que nous connaissons sont, la plupart du temps, sont des joies passives. Des joies reçues. Je gagne à la loterie, un événement, telle partie gagne aux élections, mon équipe de foot a marqué le dernier but, etc. Il y a des événements qui surgissent, qui m'envahissent et qui me font bondir de joie ou éprouver une grande joie. Ce sont des joies passives parce qu'elles viennent de l'extérieur, ce sont des joies qui prouvent ma dépendance, ma sensibilité. Je réponds au monde. Et je cherche les conditions dans lesquelles ou les événements qui, dans le monde, vont me procurer de la joie. Alors le monde, il me procure parfois ses surprises et puis souvent des agressions, donc des souffrances. Il faut une joie active. Seule une joie active peut me donner le sentiment suivant, et ça va être l'essentiel de ce que j'ai à dire, le sentiment substantiel de l'existence. Non pas le sentiment tragique de l'existence, unamuno, mais le sentiment substantiel de l'existence. Le sentiment que nous sommes. Et c'est pourquoi j'ai commencé tout à l'heure par évoquer notre expérience à nous ici. Nous y sommes dans cette expérience. Mais on va l'enrichir encore un peu. C'est l'expérience du substantiel. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, on va prendre une métaphore, une ou deux métaphores simples, les métaphores de ces que sont en réalité les deux concepts philosophiques suivants, l'être et la substance. Vous savez ce qu'est la substance, une réalité qui se suffit à elle-même et qui n'a pas besoin d'un autre concept ou d'une autre réalité pour être posée et pensée et exister. Une substance est une réalité autocréatrice, autosuffisante dans la tradition philosophique. Alors les philosophes pensent que cette substance est extérieure à eux, qu'elle est fondamentale, qu'elle est soit dans un deuxième monde, soit dans ce monde-ci, mais extérieure à l'individu. L'individu, nous dit Spinoza, n'est pas la substance. Descartes croit que l'individu est composé de deux substances. Bon, non, c'est pas possible, ils ne peuvent pas communiquer. La substance et la totalité, nous dit Spinoza. Donc, pour moi, le mot substance, au sens où l'entendent les philosophes traditionnels, est une métaphore. C'est la métaphore d'une expérience, la nôtre. Cette métaphore permet d'exprimer quoi ? Elle permet d'exprimer l'autosuffisance. Notre autosuffisance, si on veut l'éclairer avec des mots, on peut commencer par la métaphore philosophique de la substance. Nous pouvons être autosuffisants. Il y a des moments où nous ne désirons plus rien. Non pas que nous soyons blasés, comme le croient tous ceux qui vont vite. Nous ne manquons de rien, ou nous ne désirons plus rien, non pas que nous soyons blasés, mais parce que nous l'avons atteint. Alors songeons, par exemple, à une grande et définitive, mais à une grande expérience d'amour. Tout le monde connaît cela. À un moment, on est autosuffisant. On verra bien vite qu'il faut qu'il y ait l'autre pour être autosuffisant. Mais c'est l'autosuffisance que nous voulons. Nous comprendrons peu à peu que nous ne pouvons l'avoir qu'ensemble. Mais c'est bien d'une autosuffisance. Cette autosuffisance, elle est aussi une densité. Là, c'est le mot « être » de la philosophie traditionnelle qui va nous éclairer. Cette manière substantielle d'exister, cette manière réelle d'exister là en étant conscient, a une densité, c'est-à-dire une épaisseur. Une épaisseur qui fait que nous sommes, pardonnez le mot, transcendants au temps. Nous sommes à l'intérieur du temps, notre être substantiel se fait dans le temps, et pourtant il y a une densité, une force, une pesanteur heureuse, une densité, j'allais dire de plomb, mais en un sens lourd et heureux du terme. Nous existons, nous sommes autosuffisants, mais surtout nous sommes denses, nous sommes quelqu'un. Non pas du tout comme le croient, nous ne sommes pas comme le croient les philosophes contemporains du temps, mais aussi les philosophes antiques du temps. Non pas du tout, une succession destructrice d'instants qui se repoussent et s'appellent les uns les autres. Je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis pas encore ce que je vais être, Jean Kelevitch. Je ne suis plus ce que j'étais, je ne suis pas encore ce que je vais être, je ne suis rien, Sartre. Je ne suis que la négation de ce que je suis ce que je ne suis pas, et je ne suis pas ce que je suis rien, je suis le mouvement du néant, le mouvement du rien. Et on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, dit Héraclite. C'est faux. Bien sûr qu'on se baigne dans le même fleuve. Un fleuve qui passe devant chez vous, c'est le fleuve, le même fleuve. La densité que j'éprouve est la densité d'une sorte de permanence. C'est la permanence de notre être. Non pas du tout, bien sûr, que nous pensions que nos « guillemets » qualités, guillemets, traits de caractère, non pas que nous pensions que nos qualités, nos traits de caractère, notre personnalité soient des choses figées, pas le moins du monde. Nous ne sommes pas le mouvement de notre caractère, nous sommes le mouvement de notre existence, et ce mouvement, dans les moments substantiels, ce mouvement se donne comme une densité intemporelle. Je regarde un fleuve qui passe, C'est ce fleuve qui est là, il est en mouvement, donc dynamique, vivant. Moi, je suis dans le temps, je sais bien que la lumière change, que le soleil tourne. Je sais bien tout cela et en même temps, je suis dans l'intemporel. Si je regarde un paysage qui me plaît ou qui est fort, je ne regarde pas l'heure. J'admire les changements de couleur. Donc, la densité, c'est la permanence d'une individualité temporelle. L'existence substantielle est une existence temporelle, intemporelle. C'est ce qu'on appelle d'un mot, en croyant avoir tout dit, l'expérience de l'éternité. C'est-à-dire l'expérience du temps si riche et si dense qu'il ne se laisse pas percevoir directement, qu'il se déplace un peu le temps pour nous laisser vivre du non-temps. Et derrière ce non-temps, il y a une identité, nous-mêmes. L'expérience substantielle, le sentiment substantiel de l'existence, c'est le sentiment substantiel de notre existence. Nous existons en première personne, sans que d'ailleurs la première personne soit au premier plan. Nous n'avons pas besoin d'être au premier plan. Nous sommes l'être. On comprend mieux maintenant l'autre métaphore, celle du mot « être ». Le mot « être », s'il va recouvrir tout ce que je viens de dire, ce que je viens de dire étant valable, bien sûr, lorsque je contemple un beau paysage, mais également, vous le savez, lorsque vous écrivez en étant à l'aise, seul dans votre bureau, une page. Vous êtes dans un sentiment substantiel d'un temps intemporel qui se déroule heureusement dans une activité qui est la vôtre à un moment où vous n'êtes pourtant pas au premier plan. Vous écrivez, heureusement ça se déroule. Ce sentiment est le sentiment d'être, mais c'est un sentiment d'une activité substantielle, épaisse et significative. Le mot « être » va changer de sens. À la différence de sa signification figée dans l'histoire de la philosophie, l'être, c'est cette chose transcendante, immobile, éternelle et presque sans qualité. Je donne un autre sens, je reprends le sens verbal. Être, c'est déployer l'action d'être. Mais l'intérêt du mot être avec son passé, avec l'histoire passée du terme, l'intérêt, c'est qu'il nous donne la densité. Je me sens agir, je me sens en action, vivant, conscient, mais je ne me sens pas ni dispersé à travers un temps destructeur, ni absorbé dans le monde extérieur. Je suis moi-même dans un temps actif ouvert au monde, mais je suis moi-même. Il y a une identité qui n'est pas une identité caractérologique. Je ne pense pas à mes traits de caractère, je ne pense pas au contenu affectif, je ne pense à rien de ce à quoi s'occupent les psychologues. Je pense simplement à la pure existence que je suis. C'est-à-dire que le sentiment substantiel de l'existence est à la fois le sentiment de la densité, le sentiment de la personnalité, le sentiment de la première personne, et bien sûr, le sentiment de la signification. Tout cela, en même temps, vaut. J'ai regardé ce paysage, je sais qu'il a déjà été regardé par moi et d'autres, en même temps. Nous l'avons regardé ensemble. J'écris, je suis heureux d'écrire, mais d'autant plus heureux que je sais que ma feuille va être lue. C'est une lettre que j'écris ou un texte, un article qu'on m'a demandé, il va être publié, je suis heureux de l'écrire. Donc, ici, le sentiment de soi n'est pas du tout le sentiment égotiste de soi et de ses caractères, de son caractère ou de ses traits de caractère. C'est le sentiment d'une pure existence active ouverte au monde. Peu à peu, et je pourrais prendre d'autres exemples, peu à peu, le sentiment substantiel de l'existence s'enrichit. C'est un sentiment actif de substantialité, de densité, de signification qui, parfois, va atteindre, et maintenant, voici d'autres termes, pour la même expérience, va atteindre l'extrême. Cette fois, il y a des moments où ce sentiment substantiel de l'existence est extrême, paroxystique, mais conscient. Une joie qui est active et qui est consciente, qui est personnelle et qui est créée, voulue, j'allais dire consentie, mais consentant à elle-même, elle ne reçoit pas. Vous pouvez mettre des inconnus, des laboureurs devant un beau paysage, il n'y a pas de beau paysage. Puis il n'y a pas de beau paysage en soi, évidemment. Donc, une joie substantielle et une joie qui sort de source. Et parfois, elle peut atteindre à des extrêmes, à un paroxysme, parfois. Alors, ce qui est désirable, c'est que le substantiel soit suffisamment permanent pour que de temps à autre, sans s'aveugler ni se détruire, il atteigne un paroxysme. Devant une grande œuvre, vous écoutez un air, un seul air, pas l'opéra entier. Je pense à Mozart, évidemment. J'ai pas encore dit de phrase provocatrice, c'est horrible. Je vais en prononcer une quand même. C'est le seul musicien. Je prends une phrase. Et parfois, vous écoutez une phrase et alors tout s'enflamme ou s'écroule, mais se redresse, s'enflamme, tout bouge, tout tremble, tout. Enfin bon, c'est pas de l'extase, c'est une joie intense, active. Si vous êtes peintre, plutôt, vous pouvez éprouver cela devant tel ou tel tableau. Oh, regardez un Watteau avec du Mozart à côté. Là, vous avez quelque chose de substantiel, actif, complet, permanent, temporel, partagé. Ben, vous avez l'absolu. Qui est Dieu ? Ben, l'humanité, évidemment, nous. Nous, dans ces moments-là. C'est-à-dire que nous pouvons. Donc, avoir une certaine histoire personnelle qui nous a rendus disponibles à la grande expérience extrême et paroxystique, soit de l'amour, soit de la contemplation artistique, soit mieux encore l'expérience de la contemplation artistique avec et dans l'amour, soit mieux encore de l'expérience de l'amour comme expérience existentielle et artistique. Il existe donc des expériences ultimes. Ces expériences, je les appelle le haut pays, parce que cela s'atteint à l'extrême d'un itinéraire, évidemment, on va en parler. Cela s'atteint à l'extrême d'un itinéraire et cela nous élève, mais pas au sens moral. On ne devient pas meilleur, on devient plus intense, on devient plus heureux, on devient paradoxalement plus dense et plus léger. On est comme si on était sur des hauts plateaux. On devient plus dense et plus léger. Mais en plus, il faut qu'il y ait une grande lumière. Quand il y a la grande lumière sur les hauts plateaux, on atteint en effet au sentiment substantiel de l'existence, consciente et éclairée. Et le métallurgiste, pas tout de suite. Mais ni nous non plus, pas tout de suite. On n'a pas vécu tout ça tout de suite. Quoique, bon, on verra tout à l'heure. Mais enfin, et le métallurgiste, alors la question est posée. Le sujet extérieur, il faut une formation, il faut une histoire. Alors, petite parenthèse maintenant, que je vais essayer de faire brève. Il n'est pas possible de rechercher les conditions de possibilité de cette expérience extrême qui va devenir, c'est pas une expérience exceptionnelle, le haut pays. Quand on y est. À travers le temps, la recherche des conditions de réalisation de cette expérience, c'est-à-dire de cette modalité existentielle, la recherche des conditions de possibilité, doit évidemment précéder l'expérience et sa description. Moi, j'ai commencé par sa description, parce que, en fait, vous savez déjà de quoi il s'agit, puisque nous sommes ici, on en a parlé. Mais il faut maintenant parler des conditions de possibilité. Mais les conditions de possibilité et de cette expérience pour chacun de nous, et de la diffusion de cette expérience pour le plus grand nombre, ces conditions de possibilité ne peuvent être étudiées, énumérées, distinguées, analysées que si on dispose d'une théorie du sujet. Il faut commencer par une théorie du sujet. Il faut savoir qui est cet être humain qui se propose, maintenant on peut prononcer un autre mot, qui se propose ce voyage de l'être. Ce voyage qui va le conduire de l'empiricité quotidienne à l'existence substantielle. Qui est ce voyageur? Qui est le sujet humain? La plupart des gens qui écrivent des morales donnent tout de suite leur liste de valeurs. En étudiant à peine ce que veut dire valeur et en étudiant à peine quel est le porteur des valeurs. Le porteur ou le créateur. Donc il faut d'abord parler du sujet. Mais l'enjeu, cet enjeu dont nous avons parlé, qui est, vous l'avez compris, la liberté heureuse, qui est l'expérience substantielle de la liberté heureuse. C'est déjà paradoxal de parler de cela. Maintenant, nous allons parler du sujet d'une façon également paradoxale. Faussement paradoxale. Ce qui va paraître paradoxe n'en est pas un, ni pour moi, ni en réalité. Mais par rapport à la conscience dominante, cela pourrait paraître un paradoxe. C'est la pure et simple réalité. Quel est ce sujet? C'est là où je vais être rapide. À chaque moment, on pourrait développer, on doit développer. J'ai tenté de développer longuement. Mais là, on va être rapide. Tout individu est un sujet. Non pas un sujet souverain, non pas un sujet maître de lui-même, non pas un sujet indépendant et heureux, pas forcément, pas tout de suite. Tout individu est un sujet, qu'il soit ignorant, violent ou malheureux. Ou ignorant, ignorant, qu'il soit ignorant et colérique. Il est un sujet. Qu'est-ce qu'un sujet? C'est la conscience immédiate de soi en première personne. Je suis je. C'est moi qui? C'est moi qui laboure mon champ, c'est moi qui peins un mur, c'est moi qui... Tout le monde a ce sentiment. Sauf peut-être quelques sujets dans de grandes maladies, dans de grandes psychoses, mais ce n'est pas mon travail. Et ce n'est pas avec les maladies et les psychoses que je vais éclairer mon expérience. C'est mon expérience qui, s'ils le veulent bien, éclairera les psychiatres. Mon expérience, c'est-à-dire celle de tout un chacun, l'humanité, et l'expérience de tout un chacun dans la vie quotidienne pratique, dépendante, souffrante, tout ce qu'on veut, la galère, c'est « je suis moi ». C'est moi qui me lève à 5 heures du matin pour prendre le métro, voyager 2 heures, etc. C'est moi qui. Le sujet est d'abord réflexivité, conscience de soi. Pourquoi insister? C'est pour répondre à l'objection suivante. Si lorsqu'on dit sujet, on dit sujet souverain, personnalité souveraine, maître de soi, si on définit le sujet de cette façon et qu'on regarde autour de soi, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sujet. Les gens sont dans la violence et l'ignorance. Il n'y a pas vraiment de sujet. Croit-on? Parce qu'on l'a défini a priori comme avec les caractéristiques qui seront les siennes à l'arrivée. Non, le sujet n'est pas la maîtrise ni la joie, pour sa définition. Le sujet, c'est l'individu quotidien, actif, simplement conscient de lui-même et de ses tâches. Pourquoi est-ce que j'insiste? Bien sûr, d'abord pour répondre un petit peu à l'objection que nous font les contemporains, à savoir l'humanité n'est rien. Vous savez, l'humiliation dont se réjouissait tellement Freud, Copernic, Darwin et puis moi-même Freud, nous avons réduit la prétention de l'humanité à être le centre. Nous ne sommes pas le centre du monde, nous ne sommes pas le centre des espèces vivantes, et nous ne sommes pas même ni le centre ni le maître de nous-mêmes en nous-mêmes, puisqu'il y a l'inconscient, il y a l'inconscient d'évolution des espèces et le mouvement des planètes. Nous ne sommes rien. C'est d'une part pour répondre à ça que je souligne le fait que nous sommes sujets, déjà, Freud, Copernic, Darwin signent leurs œuvres, ont une permanence dans le temps, disent des choses, ça, chacun d'eux y tenait, que d'autres n'ont pas dit avant eux. Bref, ils sont sujets centraux, au centre. Mais c'est pour une deuxième raison que je souligne le fait que la vie quotidienne est celle d'une réflexivité. Quelle est cette deuxième raison? C'est la plus importante. c'est pour garantir la possibilité du passage à la deuxième étape. Le passage à la deuxième étape, c'est le passage à la réflexion, et donc à cela que tout le monde appelle sujet, indépendant, lucide, informé, maître de lui-même, agissant et réfléchissant avant d'agir, tout ce que tout le monde appelle un sujet, on sait qu'il le devient. Et on croit qu'il suffit de dire qu'il le devient par la pression sociale, l'éducation, etc., et la culture, on croit qu'on a tout dit. On n'a rien dit parce qu'on ne sait pas comment, quand on a seulement dit ça, on ne sait pas comment on devient de quelqu'un qui n'est pas conscient, qui n'est rien, comment on devient un sujet souverain. La vérité, c'est que pour devenir un sujet souverain, il faut d'abord avoir été un sujet, fût-il aliéné. Mais sujet, aliéné ne veut pas dire déterminé. Voici pourquoi j'insiste sur la réflexivité. Je résume cet argument. C'est seulement parce qu'un individu concret est déjà légère conscience de soi, en première personne, un tout petit peu devant lui, qu'il pourra un jour insister sur ce mouvement de dédoublement, s'arrêter, sans s'arrêter dans le temps, mais s'arrêter apparemment pour retourner sur lui-même. Il est en train de réparer une machine, et plus il y travaille, moins elle fonctionne. Il n'est pas obtus. Plus il travaille, moins elle fonctionne. Il s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce qui manque? Quelle est la pièce qui manque? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Il s'arrête, il revient sur la situation. Ah mais oui, j'ai oublié le fait que... Il revient sur lui-même. Il est dans la réflexion. À ce moment, il peut se rappeler qu'il a oublié de lire le mode d'emploi. Ah mais oui, il fallait que je lise avant de m'occuper de cette machine ou de réparer ma télé. C'est seulement parce que nous sommes réflexivité quotidienne qu'un beau jour nous pouvons devenir réflexion et alors découvrir que nous pouvons aller plus loin ailleurs et autrement. Car il faut ajouter que, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la première réflexivité est liberté. Et elle n'est pas liberté parce que nous aurions une faculté de volonté, une faculté de vouloir. Nous sommes nous-mêmes, conscients, désir, en même temps, conscience, désir, réflexivité, et tout cela c'est de la liberté. J'en suis au premier point seulement, la réflexivité, le sujet. Il est liberté parce que l'avenir immédiat, la seconde suivante, est une seconde imprévisible. Elle peut être différente. Il y a contingence dans le futur immédiat. Et puis dans tout le futur, il y a contingence. Alors on ne le sait pas, il faut le souligner. Il y a une liberté quotidienne, concrète, immédiate, universelle. Cette liberté est la possibilité d'agir sans que l'action présente soit causalement déterminée par le moment précédent. Vous ne pouvez pas savoir, moi seul sais, que je vais prendre un verre d'eau. Je ne pouvais pas savoir que la porte vient de s'ouvrir. Je ne pouvais pas prévoir. C'est quotidien, c'est tout simple, c'est élémentaire. Alors naturellement, cette liberté quotidienne, dans la plupart des cas, se trompe de voie. Alors, dans la plupart des cas, nos gestes quotidiens qui sont libres sont pas toujours adéquats, bien ajustés à la situation. Parfois, nous nous trompons. Nous choisissons de mauvaises voies. Il peut y avoir, par exemple, si on s'oriente en faculté, on peut choisir une mauvaise orientation. Si on se promène en forêt, on peut se perdre. Tout ça est fréquent. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. Nos premières actions sont aveugles, bien sûr, puisqu'on ne sait pas encore. Ce qui veut dire que liberté et contingence ne veut pas dire maîtrise, adéquation et joie. Ça ne veut pas dire ça, la liberté. La liberté veut dire contingence obscure, mais fondamentale. Même le mouvement des influx électriques dans le cerveau, même ce mouvement bien organisé dans l'ensemble, pour l'aboutissement ultime et contingent. Puisque je peux prendre la décision de bouger mon bras, de boire, de ne pas boire, de me lever. Et naturellement, c'est moi tout entier qui prends la décision. Il y a contingence dans le corps sujet, évidemment. Mais revenons au sujet quotidien. Il est sujet, parce qu'il pourra passer à la réflexion. Bien, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Deuxième caractéristique du sujet, ce sujet est une spécularité, puisqu'il est un dédoublement. C'est sa définition, ce n'est pas une vertu, c'est sa définition. Il est dédoublement, le sujet. Et comme il est dédoublement, il est capable de se penser. Mais quand il se pense, c'est qu'il est dédoublement. S'il est dédoublement, c'est qu'il se pense. Mais alors, s'il se dédouble et qu'il se pense, il sait ce que c'est qu'une conscience. Et il sait ce que c'est, même s'il ne peut pas le dire, même s'il n'a pas les mots, il sait ce que c'est qu'une conscience humaine. Alors il sait immédiatement qu'il peut lui aussi apercevoir dans l'extérieur quelque chose qui lui ressemble. Ce quelque chose n'est pas une chose, c'est un être humain. Étant lui-même dédoublement, c'est parce qu'il est dédoublement et conscience de soi qu'il va être conscient du fait que l'autre est un autre lui-même, comme lui-même à l'envers. À l'envers, puisqu'il voit un corps, mais pas la conscience dont il est certain, nous sommes certains que la conscience de l'autre existe. Erronée, ignorante, tout ce qu'on veut, mais c'est une conscience humaine qui est un sujet. Donc, spécularité. Alors, je découvre à ce moment le lien entre réflexivité, spécularité, c'est-à-dire conscience d'autrui, mais cette conscience d'autrui, elle n'est pas une conscience désintéressée, rationnelle, qui consiste à connaître le monde et connaître autrui. Le troisième aspect de l'individu, c'est le désir. Nous sommes désir. Mais ici encore, paradoxe, ce désir que nous le sommes entièrement. Il n'y a pas d'un côté le sujet et de l'autre côté le désir, de telle sorte que parfois ce sujet oublierait son désir. Non, et qu'il deviendrait un beau jour sujet de son désir. C'est des formulations simplifiantes. Qu'est-ce que c'est ce désir ? Mais c'est le sujet dont je vous ai parlé depuis le début. J'ai pas pu tout dire en même temps. Si j'avais commencé par dire l'individu humain est un désir, alors immédiatement on aurait pensé seulement à oui, affectivité, émotivité, conflit, combat, etc. Mais non, non. Ce désir est une conscience. Il fallait d'abord placer la conscience. Mais ce sujet, qui est réflexivité tout de suite, il est désir. Ça veut dire que c'est comme désir qu'il est réflexivité. Le désir est toujours conscient. Bien sûr, on nous dit parfois, et parfois on a raison de nous le dire, vous ne comprenez pas bien le lien qu'il y a entre votre vie passée et vos désirs actuels. Oui, non, on ne comprend pas bien, peut-être. Peut-être on ne comprend pas tout de suite, on ne comprend pas bien. On ne connaît pas tout de suite les significations totales et profondes de l'enchaînement de ses désirs, de ses propres désirs. On ne connaît pas. Mais on est conscient. Je désire boire un verre d'eau, je sais que je désire boire un verre d'eau. Il ne peut pas y avoir de désir inconscient. S'il y a désir inconscient, il y a anomalie qui ne me concerne pas. On est somnambule. Je ne sais pas ce que c'est. Je laisse à d'autres le soin de creuser. Mais avant d'être somnambule, il faut être conscient de soi. Savoir marcher seul dans une rue et boire un verre d'eau. C'est ça qui m'intéresse. Et je découvre que la réflexivité n'est pas une faculté de connaître, elle est un désir. Oui, mais j'insiste pas là-dessus pour souligner le fait suivant, avec un peu de mépris, pour souligner le fait suivant. Ah, vous savez, la conscience, ça n'est jamais que du désir. C'est ce qu'on nous dit, hein, c'est comme ça qu'on le présente. Vous agissez comme ça, mais c'est votre désir qui vous... Votre désir, sous-entendu... Une force en vous qui n'est pas tellement sympathique. Votre désir égoïste vous meut, hein ? C'est pas ça du tout que je dis. Je ne rabaisse pas le désir, je l'élève. Je suis en train de dire, le désir est conscient, ça ne veut pas dire c'est le désir qui manipule la conscience, c'est pas ça. Cela veut dire, c'est le désir qui se déploie comme... ce que nous savons être la conscience. Cela signifie, et c'est là-dessus que je veux insister, pas sur l'autre aspect, humiliation. Je veux au contraire insister sur le fait que, alors et dès lors, si le désir est une conscience, il est une liberté. Liberté aveugle, liberté d'abord peut-être imprudente, peut-être maladroite, peut-être obscure, peut-être mal informé. Le jeune homme qui prend de la drogue, pour vous savez qu'ils disent ça, pour quoi faire ? Pour voyager. Le jeune homme prend de la drogue pour atteindre un moment psychédélique qui sera une extase. Mais il s'est trompé d'autobus. Ce qu'il veut, c'est son désir de joie. Il a raison, le jeune homme, de chercher des voies. Il a tort d'aller si vite et de prendre comme voie le poison. Il y a une erreur. Au début, bien sûr, il est libre et erroné. Il désire dans l'ignorance. Mais il a une conscience et il a un désir. Avec ça, on peut faire une vie. Donc, nous avons affaire à un sujet qui est conscient de soi et libre désir et libre relation à autrui. C'est avec ça, avec ce sujet concret quotidien, qu'on va devoir atteindre le haut pays. Alors, ce n'est pas immédiat. Vous n'allez pas tout de suite expliquer dans un hôpital à la demi-douzaine de drogués auxquels vous vous adressez, vous n'allez pas leur expliquer « lisez de la philosophie ». C'est long, c'est difficile, etc., etc. La voie et la condition de possibilité principale, ça va être la suivante, que j'ai déjà nommée, mais que je vais ressouligner. C'est la possibilité pour toute conscience de passer à une réflexion qui rend possible la maîtrise. À une réflexion qui, elle ne sera pas moins libre que la réflexivité, elle va être plus libre, parce que cette fois la réflexion va être éclairée. La réflexion va conserver le pouvoir de décision contingente de la vie quotidienne, la réflexivité, mais en plus elle va ajouter de l'information, de l'interrogation, de la question, un arrêt réflexif, si bien que l'action va être reprise maintenant. Et avec le drogué, on va commencer à lui expliquer, à lui parler de mille choses, à lui parler des drogues, à lui parler du système nerveux, de l'existence, la famille, tout le tremblement, etc. On va essayer de le faire réfléchir. S'il y a une dépendance physique, imaginons, il paraît qu'on peut prouver ça. C'est pas mon objet. Mon objet, c'est d'avoir affaire à des consciences saines dans l'erreur. Dans l'erreur, dans la souffrance, dans la dépendance. Ce n'est pas une maladie, l'erreur, la souffrance et la dépendance. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des épreuves de conscience hâtive et cernée. On n'est pas coupable, ni malade. C'est à ces gens que s'adresse la philosophie, pas aux malades. Donc l'instrument principal est la possibilité de la réflexion. L'outil, mais quelle pratique ? Faut-il une pratique particulière ? Qu'est-ce qui se passe ? On a pourtant tous les éléments là pour faire une éthique de l'existence, une éthique, c'est-à-dire pour définir quelques principes pour l'action. Est-ce qu'on n'a pas tous les éléments ? On a une conscience, elle peut passer de la réflexivité à la réflexion, elle est désir et désirante, elle sait ce qu'elle veut, et puis elle est en relation avec autrui tout naturellement. On a de quoi faire une éthique. Et qu'est-ce qu'on constate avec ces simples éléments ? On regarde autour de soi, on a le monde qu'on connaît, et on constate quoi ? La burqa. C'est-à-dire le contraire. La négation, l'ignorance, l'obscurité, la violence, la folie, le délire. On a aussi autre chose. On a les 3 fois 8 heures chez Renault. On a les sans-papiers et les sans-domicile. Et puis on a la guerre. Où la guerre ? Ben en Syrie, au Pakistan, en Afghanistan, en Israël, en Indonésie. Pourquoi la guerre ? Ah, puis en Afrique, j'ai oublié l'Afrique, il y a la famine dans l'Est. Il y a la famine. Puis il n'y a pas très longtemps, descend un peu plus au sud, dans le centre de l'Afrique, il y a le paludisme. Ça commence à faire beaucoup. Avec les seuls éléments dont nous disposions, on constate qu'autour de nous, c'est la violence et l'ignorance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des lois, on fait des démocraties, on avance un tout petit peu, un demi-pas tous les 3 siècles, on avance un tout petit peu, et puis qu'est-ce qu'on constate ? La violence et l'ignorance. Vous avez des paysans qui souffrent, qui meurent de faim. Je pense à la Russie avant 1917. Vous avez des paysans qui meurent de faim. Qu'est-ce que vous faites? Une révolution. Vous enlevez le tsar et vous mettez Staline. Résultat, paysans, famine et souffrance et camp de concentration. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait, la révolution. On a fait la révolution, on a inventé des institutions. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pareil. La vérité, c'est que les institutions ne peuvent pas changer les choses par elles-mêmes. La vérité, c'est qu'on a oublié une chose, c'est que les institutions, ça c'est la faute des sociologues, on a cru que les institutions étaient des forces autonomes, qui se créaient elles-mêmes, qui s'enchaînaient les unes les autres dans l'histoire, mais qui étaient autonomes et qui absorbaient et télécommandaient les individus. Ce sont des histoires, tout ça, des histoires de borgne. La vérité, c'est qu'une institution est faite par les individus. Il n'y a de propriété privée que parce qu'il y a des notaires et des clients. Des clients, des notaires qui font confiance aux notaires, les notaires qui disent « ça est à vous, ça est à vous ». Oui, mais ce n'est pas la faute des notaires, c'est la faute de ceux qui disent « ça est à moi, ça est à moi ». Donc il y a des individus qui disent telles et telles choses et qui en font une loi. Puis après, c'est bien, il y a une loi, c'est écrit, il y a tout un corps d'individus, les administrateurs, les magistrats qui appliquent ça, et puis tous les autres qui disent « ah ben oui, 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 d'accord, nous on est d'accord, et on fait quoi ? L'institution. » L'institution de la poste, elle n'existe pas s'il n'y a pas des personnes qui envoient des lettres ou des mails. Il n'y a pas une institution de la poste, il y a les gens qui. Alors une fois qu'on sait ça, on comprend que ce ne sont pas des changements politiques immédiats, des changements institutionnels et politiques qui peuvent changer les relations entre les hommes. Il faut d'abord avoir changé les individus qui font les institutions. La révolution 89, la révolution a mis en place de nouvelles institutions de recherche, des universités, des écoles, de nouvelles institutions de recherche. Ce sont des institutions, des groupes qui vont donner une éducation nouvelle, mais n'oublions pas que la révolution a été faite par des individus. Alors on nous parle des famines en 1787 ou 86, on nous parle des famines, la misère du peuple, etc. Ce sont des éléments objectifs et inefficaces. Ce qui fut efficace, c'est l'action des individus. Rousseau, D'Alembert, etc. Et puis, tous les groupes qui ont compris Rousseau, D'Alembert, Voltaire et les autres, tous les groupes qui ont compris, tous les individus qui ont compris, tous les individus qui, peu à peu, se sont rassemblés. Bref, si l'humanité avance, c'est grâce à Procope. Si l'humanité avance, c'est grâce aux individus. Des individus cassent des habitudes, contestent des idées toutes faites et favorisent, inventent, participent ensemble à l'invention d'institutions nouvelles. Alors oui, maintenant, les institutions au XIXe siècle vont être des institutions d'éducation, on va dire, vont être, par exemple, elles vont devenir laïques, vont être un peu plus actives, un peu plus riches, un peu plus créatrices, ces institutions-là, que les institutions du siècle précédent. Mais on n'est pas passé d'une institution à une autre, on est passé d'une institution mise en cause par des individus qui ont fait une autre institution qui va créer, grâce à l'éducation nouvelle, d'autres individus qui vont créer d'autres institutions. Et tout ça en spirale ascendante. Ce qui veut dire que la responsabilité première est celle des individus. Même dans notre perspective maintenant, laissons la perspective politique, c'est-à-dire le but qui consiste à viser une justice distributive pour le plus grand nombre. C'est un but. Mais pourquoi ce but? Comment ce but? Pas tout de suite par le changement de la société. On a fait la révolution en 17, et puis résultat, il y a les apparatchiks, le goulag, non seulement le goulag, mais les privilèges en même temps. Donc ça suffit pas. C'est des individus qui doivent développer des idées pour des institutions avec de nouvelles idées. Alors autrement dit, il faut changer les individus. Et nous y voilà. En ayant jeté un regard un peu rapide sur l'ensemble de la situation humaine, les individus, la société, l'éducation, la place de tout ça, en ayant mis tout cela en place, on comprend bien que, en dernier ressort, c'est la responsabilité des individus. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, on nous dit l'individu ne peut pas aller tout de suite à l'Assemblée puis proposer une loi. Bon, évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Où est-ce qu'on peut changer les individus? Ben, en eux. Non seulement à l'école, mais au-delà de l'école. Il faut prendre quelqu'un dans une école, un lycée, une université. Il faut prendre quelqu'un dans une institution d'éducation qui va s'arracher à l'institution. S'il rencontre quelqu'un qui l'aide à s'arracher à l'institution, c'est mieux. Mais des individus, peu à peu, ensemble, peuvent s'arracher à l'institution. Pour faire quoi? Pas appliquer les idées des générations précédentes. Il y a encore des gens qui veulent appliquer les idées de 1848. Non, il faut appliquer pour des institutions neuves, des idées neuves. C'est aux individus d'agir. Seuls les individus sont créateurs. Ne nous laissons pas impressionner et terroriser par l'affirmation des sociologues. Conscience collective, pression, je suis formé par mon entourage, etc. C'est des histoires. Notre entourage, il est multiple et nombreux, et les uns choisissent, guillemets, une influence chrétienne, et les autres choisissent, guillemets, une influence musulmane. Ils font ce qu'ils veulent. Et comme ils sont nombreux à vouloir la voie X ou la voie Y, comme ils sont nombreux, ben ensemble ils se mettent à créer des institutions. Comme ils sont paresseux, ils vont se soumettre à l'institution qu'ils ont créée. Ils font un jour un tout petit effort. Ah tiens, si on écrivait ça, on va dire que c'est une loi. Et puis après, le petit effort, il retombe et ils obéissent à ce qu'ils ont écrit, puis les suivants pareil. Au contraire, quelques individus peuvent s'arracher à l'institution et puis tenter de créer quelque chose d'autre. Mais avant de créer quelque chose d'autre, il faut faire comme Descartes. Il faut d'abord commencer à tout renverser. Mais ça ne suffit pas de dire ça, parce que Descartes dit « On m'a appris des choses, je vais commencer à les contester. » Je les conteste. Puis après, je vais trouver la manière de les démontrer. Après, il va les redémontrer, les choses qu'il n'avait pas voulu croire. C'était bien la peine, assurément. Puis il va redémontrer Dieu. Il n'y a pas de Dieu au début, mais il y a Dieu à la fin. Puis il y a tout. Il le dit quelque part, je ne sais plus où. Je ne vous propose pas une sagesse. Pour ça, il y a des gens. Hein. Vous regardez dans la religion, elle va vous donner la voie. Moi, je vous dis comment il faut faire des mathématiques. Heureusement, il y a Spinoza qui dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut tout reprendre. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes au XXe siècle, au XXIe siècle. Il faut encore faire autre chose, autrement. Parce que Spinoza, il fait un gros effort, il renverse tout, et puis après, il dit, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, tout est déterminé. Oh bon, ce n'était pas la peine, alors. Non. Qu'est-ce que nous allons faire? Une conversion. On va tout changer, mais alors, tout. Mais on ne va pas simplement dire, on change. Ça, c'est absurde, quand on nous dit ça. On a une ligne de métro, on descend la correspondance et on change. Et qu'est-ce qu'on prend? Un autre métro. Le même. La même structure, le même métro, les mêmes lignes, et on va arriver dans une gare qui est la même que celle qui était sur l'autre ligne. On change. On change de ligne politique. On change. On change rien du tout. On maintient, on perpétue. Il faut définir l'acte de changer. Changer, c'est renverser ici. La conversion, c'est un renversement. On va renverser nos perspectives. Et on ne va pas renverser nos perspectives d'une manière violente, d'une manière provocatrice, d'une manière agressive. C'est pas la peine. Si on change d'une manière violente et agressive, cela veut dire qu'on reprend les mêmes attitudes qu'auparavant. Les révolutions manquées, c'est cela. Elles reprennent les mêmes attitudes en donnant les biens publics et l'autorité publique à d'autres acteurs. Tout simplement, mais c'est les mêmes individus, ou le même style d'individus. Le pouvoir, la hiérarchie, la domination, la légalisation, le bien, le mal, le légal, etc. C'est la même chose. Changer, c'est pas changer simplement en extériorité. Changer, c'est renverser, et renverser, ça n'est pas simplement renverser des institutions par la violence, c'est pas ça. Ça n'est pas non plus la sainte révolte du jeune homme qui rompt avec ses parents. la révolte pour dire « je marche plus, je suis libre ». Je suis libre, je marche plus dans ses lois, je marche plus dans ses habitudes, je vais ailleurs et qu'est-ce que je fais? Ben, la même chose. La même chose. Parce qu'il n'a pas voulu faire pareil, mais il fait pareil. La violence, le prestige, etc., etc. Il ne suffit pas de changer de ligne, il faut changer de regard. Et le regard, il faut maintenant le renverser. Et ça ne suffit pas encore. C'est pour ça que je prends la liberté d'être un peu détaillé. Parce qu'on n'a encore rien dit. Quand on a dit « il faut renverser le regard », qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On croit que ça veut simplement dire « eh bien, il faut dire d'autres choses sur le monde ». Non, non, pas n'importe quelles autres choses. Il faut dire l'envers des choses aliénantes qu'on présente comme vraies. Et cette conversion, je vais la définir un peu en détail, uniquement pour donner du sens à l'ensemble de ce que j'ai dit avant et à l'ensemble de ce que je vais dire après. Parce que pour que ce qui va venir après soit possible, et qu'on ne puisse pas faire l'objection selon laquelle c'est impossible, il faut que j'aie montré en détail et que vous ayez été convaincus de ce que c'est que l'efficacité de la conversion. La conversion ne consiste pas à dire « je décide, je change, je suis ailleurs ». Ça, c'est 17 ans contre papa-maman. Oui, bon, c'est un début et c'est pas obligé, c'est pas forcé et c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait plus en détail, plus sérieusement? Trois stades, trois renversements, les trois conversions. Mais remarquez, on est peut-être vers la fin de la description, parce que le but, le haut pays, on en a parlé au début, puis vous savez ce que c'est. Nous sommes en train de dire comment y arriver. C'est pour ça qu'il faut que nous prenions le temps de bien décrire la conversion, l'arrachement. L'arrachement renversant. Il y a trois aspects, on va quand même les nommer distinctement. Le premier aspect, c'est le retour sur soi, c'est la conversion réflexive. Alors, le retour sur soi n'est pas ce que nous disent les psychologues. Psychologues, thérapeutes, consultants, etc., etc. Le retour sur soi, vous découvrez ce que vous voulez vraiment désirer, vous devenez sujet de votre désir, vous étudiez bien les choses que vraiment vous voulez, et puis cette fois, vous y allez. Vous ne vous laissez pas impressionner par le second étage, les voisins du second étage, le surmoi. Vous ne vous laissez pas impressionner, vous y allez avec votre désir, lequel suit d'avant. Non, ce n'est pas ça. Le retour sur soi, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Le retour sur son caractère, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai fait dans la... Ce n'est pas ça non plus. Ni l'introspection, ni l'auto-analyse. Pas l'introspection, pas l'auto-analyse. Pas l'analyse de caractère. Si on commence à chercher ce qu'est notre caractère, on va s'en créer un, alors qu'il n'y a pas de caractère. D'un enfant dans de bonnes conditions à un enfant dans de bonnes conditions, on peut tout lui apprendre, et la liberté notamment. Il peut ne pas devenir violent, colérique et anorexique. Il peut le devenir, il peut ne pas le devenir. Qui, seulement les enfants de profs? Évidemment non, tout le monde, tous les gosses. Donc ça, on a réglé la question, c'est en ça que Cerisy est fabuleux. On a réglé la question, on sait aussi, on a répondu à la politique, on sait qu'il faut une autre constitution et des coopératives, une autre éducation, on sait tout ça, et maintenant, enfin, on arrive au cœur. Le retour sur soi et le retour critique. D'abord, pour simplifier, on va dire le retour critique sur deux idées reçues en moi, en nous. Deux idées reçues, deux évidences, pseudo-évidences, guillemets à évidence. Et la première évidence, c'est le déterminisme objectif. Il nous paraît que nous vivons dans un monde de déterminisme. Quand les psychologues sont un peu plus prudents, ils disent détermination. Et puis quand on les questionne, ils disent... motivation, mais causale. Non, non, pas causale, mais quand même, motivation. C'est la première idée reçue, le déterminisme. Alors prenons un exemple. Un déterminisme qui nous domine tous, c'est l'économie. Voilà. Si je dis en public, un déterminisme qui nous détermine tous, c'est l'économie, tout le monde est d'accord immédiatement, c'est évident. C'est évident, c'est pas nous qui faisons le prix de l'essence, c'est pas nous qui, etc. C'est évident. J'ai pas de travail, c'est pas ma faute, ça vient de l'extérieur. Et c'est faux. Et c'est tout simplement faux. Cette idée reçue par tous, diffusée par les sociologues, les anthropologues, est fausse. L'économie nous domine, c'est-à-dire les cours de bourse, les cours de la bourse, c'est-à-dire l'action de certains individus. Ils sont nombreux, mais pas en nombre infini. On peut évidemment les connaître et les recenser. Il y a des individus qui font des opérations boursières. Leurs opérations boursières, sauf quelques rares cas, mais qui confirment la règle, quelques rares cas de fraude, comme les traders, etc., dans la plupart des cas, et c'est comme ça que la société fonctionne. Toutes ces opérations boursières obéissent à une législation. Toutes les législations sont promulguées par des États ou des groupes d'États. C'est-à-dire que toutes les législations qui légifèrent les finances mondiales sont des législations librement choisies. Mieux, ce sont des législations qu'on peut changer. Preuve, il va y avoir, il y a déjà, une taxe sur les transactions financières. Nous pourrions rire, une taxe de 0, je ne sais pas combien de 0, 1. Qui décide ça ? Des individus, des représentants experts, bruxellois ou new-yorkais, je ne sais pas. Ils décident que ce qu'ils peuvent faire, la taxe sur les transactions. Ils décident qu'elle sera infime. Pourquoi ? Pour pas déranger. Pardonnez-moi, je vais vous taxer. Je m'excuse, mais ça devient... Il y a une pression, là. Bref, nous sommes libres et on laisse faire. Alors, le plus paradoxal, c'est que les gens, obscurément, hein, vraiment, à un niveau d'obscurité écrasant, mais ils le savent. Ils savent... Quand tout ça, il y a responsabilité. Tous les Grecs et tous les Espagnols le savent. Il y a responsabilité. Ils savent pas trop de qui. Les uns disent, oh ben, c'était normal qu'on paye pas nos impôts. C'était pour les Turcs. Donc, on payait pas nos impôts. Puis après, on a pris l'habitude. Il y a des responsabilités. Oui, mais c'est pas nous, c'est les financiers. Oui, bien sûr, c'est les financiers. Mais non, c'est pas les financiers, disent les financiers. Mais si, disent les Espagnols. Ou les Américains dépossédés de leur logement. Mais bien sûr que ce sont les banques. Et les banques, c'est quoi ? C'est les lois promulguées par les assemblées de chaque pays. On oublie ça. Les banques, c'est les assemblées qui consentent. Et puis, c'est les clients qui consentent. C'est nous qui faisons marcher les banques, qui faisons marcher la poste. Tout le monde est responsable de la marche de la société. Le premier préjugé que nous devons renverser en nous, c'est le déterminisme. Alors, bien entendu, j'ai pris comme exemple des exemples collectifs et immenses pour le raisonnement. Mais il est clair que dans notre vie, il faut que ce soit plus rapide. Je sais bien que la responsabilité du fonctionnement des finances est due aux assemblées et aux nations. Et je comprends bien par conséquent qu'un changement ne peut être que lent, comme pour faire évoluer, orienter un paquebot. Ça ne peut être que lent. Nous sommes d'accord, Descartes avait raison. Pour changer des institutions, il faut du temps, nous sommes d'accord. Nous avons notre vie à transformer. Alors on ne peut pas attendre sur ces libertés-là. N'attendons pas le progrès des institutions pour refaire notre vie. Avant que l'école, que l'éducation, que l'université soient suffisamment transformées pour qu'il y ait de la philosophie pour tous et partout, avant ça, du temps passera. Nous n'avons pas le temps d'attendre, faisons-le maintenant pour nous, autour de nous. Alors, le déterminisme que nous allons contester, c'est le déterminisme autour de nous. Suis-je obligé de vivre dans le pays où je vis ? Mais non. Suis-je obligé de ne pas quitter mon village ? Mais non. Suis-je obligé d'aller au lycée que l'on m'impose ? Mais pas du tout. Suis-je obligé d'aller au lycée ? C'est pas sûr du tout. D'aller en fac si je veux, etc., etc. Ne dites pas que les choses nous tombent dessus. Rien ne nous tombe dessus parce que, voici maintenant, la deuxième idée toute faite que nous devons renverser par la première conversion, retour sur soi. Mais encore un mot sur le point précédent, le mot de conclusion, c'est la chose suivante, c'est moi qui fais les déterminismes, c'est pas le déterminisme qui me fait. C'est moi qui ai organisé ou laisser faire ma vie passée. C'est moi qui me suis inscrit à tel endroit, à telle université, à tel cours professionnel. C'est moi qui ai fait ça et qui ai appris tel métier et pas tel autre. J'ai fait semblant de ne pas être d'accord, oui, je m'inscris dans telle filière, mais j'aime pas tellement ça. C'est faux. Si vraiment vous n'aimiez pas ça, vous n'y seriez pas resté. Il faut changer notre mauvaise foi originelle primitive, qui est une paresse existentielle, nous redécouvrir comme la source de cela que nous appelons déterminisme. Il y a des statistiques qui montrent que dans l'université, il y a beaucoup plus de fils de bourgeois que de fils de prolétaires. Si bien que, on nous dit, si vous êtes prolétaire, eh bien vous avez peu de chances d'entrer dans la culture et l'indépendance, puisque regardez les statistiques. Et on nous dit ça tranquillement et froidement. Ce qui veut très exactement dire, si vous êtes prolétaire, vous êtes coincé. La preuve, il y a des statistiques. Quelles statistiques? Les statistiques de toutes les décisions qui ont été prises avant. Il suffit par exemple qu'un groupe de consommateurs se réunisse, décide un boycott pour ruiner une entreprise, ou pour faire supprimer, ça c'est plus fréquent, un produit dans un étalage de supermarché. Les consommateurs se réunissent, le produit disparaît. Si l'ensemble des consommateurs d'une région décident de ne pas acheter telle marque. Il y a eu des expériences comme ça, on peut toujours les multiplier. Donc, le déterminisme, c'est nous qui le font. C'est étrange qu'en notre temps, il faille tant de temps et d'efforts pour expliquer ce que, en quelques pages, la Boétie avait déjà compris il y a longtemps. La servitude est toujours une servitude volontaire. Deuxième préjugé dans la conversion vers soi. Et j'irai plus vite parce que vous allez comprendre qu'on pourrait faire le même raisonnement. Le deuxième préjugé, c'est l'objectivité des obstacles. C'est presque la même chose. On croit que les obstacles sont là devant nous et nous bloquent. Non, c'est nous qui faisons les obstacles. Si moi je veux faire l'ascension du Mont Blanc, le Mont Blanc est un obstacle. D'ailleurs pour moi infranchissable. Oui, mais j'ai pas envie de faire l'ascension du Mont Blanc, donc c'est pas un obstacle. C'est un obstacle pour ceux qui veulent la faire, tout simplement, cette ascension. Mais alors, ça veut dire qu'ils constituent l'obstacle, mais ils le veulent. Ils le veulent, l'obstacle. C'est-à-dire que chacun sait que l'alpiniste, il se sent libre, il ne se sent pas contraint. Il est libre, puis il est content. Il souffre, mais content. Pourquoi ? Parce que libre, il a raison. Il a choisi certaines choses. Ce qu'il veut, c'est accepter une souffrance pour avoir une expérience à un certain moment. C'est l'expérience qu'il veut, il l'aura. Et l'obstacle, ben c'est le chemin, mais il sait, il a compris. Puis c'est lui qui l'a constitué. Il ne se plaint pas. Jamais un alpiniste ne se plaint du poids du sac. Or, dans la vie quotidienne, dans la vie politique, tout le monde est en train de se plaindre. L'essence est trop chère. Ben n'achetez pas d'essence. Oui, mais il faut se déplacer. Ben vous ne déplacez pas. Oui, mais c'est notre travail. Changez-le. Ou vous en changez, ou vous changez le travail. D'ailleurs, on peut travailler à distance. Oui, mais c'est pas commode. Rendez-le commode. Créez des groupes qui? Oui, mais j'y connais rien en électronique. Apprenez. Oui, c'est difficile, hein, vous voyez. Supprimer les obstacles, supprimer le déterminisme, c'est pas une mince affaire. Faut s'y coller. Bon, alors imaginons qu'on l'ait fait. J'avais envie de vous dire, il y a une phrase qui m'a traversé l'esprit, mais je vais la rappeler pour le pittoresque. Ne la prenez pas trop au sérieux. La phrase, c'est ceci. Moi, je l'ai fait. Sous-entendu, vous pouvez. Oui, parce que moi, c'est n'importe qui. Je suis n'importe qui. Je suis un sujet humain. Il n'y a pas de bon Dieu. J'ai pas de religion. Un jour, j'ai dit non à ceci. Un autre jour, j'ai dit non à cela. Et puis, un autre jour, j'ai dit oui à quelque chose qui était interdit. Puis, j'ai dit encore oui à quelque chose qui était encore plus interdit. J'ai dit non. J'ai dit non quand il fallait dire oui. J'ai dit oui quand il fallait dire non. Et puis, peu à peu, il y a des choses qui se sont construites. Ça, c'est la première conversion, le retour à soi. Alors, maintenant, je peux résumer les deux réflexion victorieuse que nous avons fait contre le déterminisme et l'obstacle et l'objectivité, je peux résumer et dire la première conversion comme retour sur soi ne découvre pas des traits de caractère mais notre pouvoir créateur. Et découvrir notre pouvoir créateur ne consiste pas tout de suite, comme on le croit, à être convaincu que dans l'avenir nous allons pouvoir créer. Ce qui est vrai. C'est vrai que dans l'avenir nous allons pouvoir créer. Mais la conversion, elle est beaucoup plus rigoureuse et plus prudente. La conversion va aller avant la création future, elle va aller dans la création présente et passée. C'est pourquoi elle va être certaine d'elle-même, cette réflexion. Qu'est-ce que je veux dire ? La chose suivante. Le retour sur soi consiste à découvrir que nous avons tout créé autour de nous. Nous avons créé les conditions de notre vie, nous avons créé notre environnement, mieux, nous créons les significations dont nous croyons qu'elles sont objectives. Par exemple, le respect d'autrui. C'est une valeur... Non, non. Une valeur qui s'imposerait à nous de l'extérieur ? Non. J'ai pris tout à l'heure volontairement l'exemple, parce que c'est un exemple qui rassemble tout. Le respect d'autrui, je prends l'exemple anti-exemple, la burqa. Non, c'est pas vrai que le respect d'autrui soit une valeur qui s'impose à tous. Elle s'impose pas à des milliards d'individus. Oui, mais bon, d'accord, la mauvaise foi, oui, pourquoi pas. Il faut que la première conversion soit le retour sur notre pouvoir de création. Nous créons les valeurs, prenons par exemple la lutte contre la faim. On a l'air de croire que c'est évident, c'est pas évident du tout. Qu'il y ait des famines, même le mot famine est un mot éthique, que moi j'emploierai, moi aussi je lutte, je suis prêt à lutter contre la faim. Je suis pas en train de vous dire que c'est mal, je suis en train de vous dire que ça vient de notre pouvoir créateur, la lutte contre la faim. Ce qui est objectif et mesurable, ce sont les calories et la composition de l'alimentation d'un certain nombre d'individus formant une population. Ça, on peut calculer. Mais pourquoi calculer, pourquoi appeler famine 1000 calories par jour ou 300 calories par jour ? 300 calories par jour, c'est scientifique. Famine, c'est une protestation éthique. Et c'est nous qui donnons à cet événement la signification de scandale. Et nous avons raison, naturellement. Et la preuve que c'est une création humaine, c'est que les combattants fondamentalistes d'Afrique et du Soudan, ou plutôt d'Éthiopie, là-bas, et d'Érythrée, créent la famine pour leur lutte militaire. Ils créent, comme vous le savez, la famine. Et quand ils n'ont pas créé la famine et que des organisations, des ONG viennent aider les populations, ils interdisent les ONG. On ne peut pas aider des populations dans la famine parce qu'il y a des combattants fondamentalistes qui empêchent l'aide. La famine, la lutte contre la faim, n'est pas une valeur universelle. Vous me direz, ça fait beaucoup, la burqa et la lutte contre la faim, ou plutôt la lutte contre l'aide, la lutte contre l'aide contre la faim. C'est pour vous donner des exemples clairs et forts du fait que on peut tout nommer. On peut tout comprendre, l'origine des déterminismes, on peut tout nommer, tout comprendre. Les cours de la bourse, c'est nous. Le prix de l'essence, c'est nous. Pourquoi faut-il qu'il y ait des voitures qui consomment tant d'essence ? On nous dit qu'il faut se déplacer, on peut se déplacer avec des voitures simples. Passons. Donc, premier retour sur nous-mêmes, la découverte de notre pouvoir créateur, créateur des déterminismes, créateur des significations, j'ai vu avec la famine, créateur des valeurs. L'idée de justice, elle n'est pas objective, comme croient les sociologues, les journalistes, des histoires, les chefs de parti. L'idée de justice, elle est une prise de position personnelle. Des palais avec des masures, c'est pas possible. C'est nous qui décidons ça, c'est pas objectif. La preuve, c'est que les masures en Égypte ont duré 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 7000 ans, des masures et des palais. Ça peut durer des millénaires. Un beau jour, on dit non. Oui, on pouvait le dire avant. C'est notre pouvoir. Notre pouvoir est aussi source des valeurs, on vient de le dire. Notre pouvoir intérieur est aussi source des significations. C'est encore plus universel. Qu'est-ce que je veux dire ? Lire une page, lire un panneau routier, c'est interpréter. C'est interpréter des tâches sur un fond. L'écriture, ce sont des tâches d'imprimerie des marques d'encre sur un support, comme on dit sur du papier, du métal, du bois. Et ces taches n'ont pas de sens. C'est pas vrai. Si vous lisez un panneau routier, vous croyez que la signification tour de 100 km est sur le panneau, il n'en est rien. Sur le panneau, il n'y a rien comme signification. Il y a des taches d'encre sur fond. Vous vous en apercevez lorsque vous voyagez au Japon. Et au Japon, vous vous apercevez bien que sur les panneaux, il n'y a rien que de jolis dessins. Il faut savoir lire. Ben, savoir lire, allez-vous me dire, savoir lire ce qui est écrit. Non, mais savoir lire, ça veut dire, et c'est ça qu'on oublie, mobiliser une activité intellectuelle personnelle en première personne. Quelqu'un qui ne veut pas lire, ne lit pas. Quelqu'un qui lit sans attention, ne lit pas. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre à écrire, n'apprend pas à écrire. Il faut le désirer, intellectuellement et puis intuitivement. Et ce désir d'apprendre est un désir de créer, de comprendre qu'on crée. On crée notre pouvoir de lecture. On crée la signification de la page imprimée. On la crée. La preuve, c'est qu'on peut très bien la lire sans la comprendre. C'est pour ça qu'on distingue les analphabètes et les illettrés. Certains connaissent l'alphabet et ne savent pas ce que veut dire une phrase. Ils savent la lire, ils comprennent rien, mais alors rien. L'expérience substantielle de l'existence, vous imaginez. Donc, nous avons un pouvoir créateur aussi des significations extérieures. Les signes objectifs, ce que Hegel appelait l'esprit objectif. Il n'est pas tellement objectif que ça, il est le fruit de notre activité créatrice. C'est nous qui sommes capables de lire. C'est nous qui sommes capables de transformer un bâtiment et de le nommer un bâtiment opéra. C'est notre regard qui fait d'un amas de pierres un opéra. Notre regard, notre démarche, nous y allons, nous entrons, nous écoutons, nous comprenons, nous nous réjouissons. Nous avons animé l'opéra. Si personne n'écoute, quand il n'y a personne, imaginons, je ne sais pas moi, dimanche matin, il n'y a personne à l'opéra, il n'y a pas d'opéra, il y a des pierres. C'est nous qui créons tout cela. Pourquoi insister? Non pas pour souligner notre responsabilité. Non pas pour vous dire, mais c'est vous qui êtes créateur de toutes ces dépendances, le prix de l'essence, le cours de la bourse, c'est vous qui êtes responsable, c'est nous qui sommes responsables. Nous sommes tous coupables. Non, c'est pas pour dire ça que je souligne le fait. C'est pas du tout pour dire ça. C'est pour dire, regardez le passé immédiat et lointain, regardez dans le passé. Reconnaissons, prenons conscience du fait que c'est nous qui l'avons créé. Chaque seconde, nous créons notre environnement, notre société. Et pourquoi le souligner? Pour l'idée suivante. Mais puisque c'est nous qui l'avons créé dans le passé, nous pouvons maintenant commencer et continuer à créer dans l'avenir. Mais puis s'il s'agit de création, nous pouvons peut-être créer autrement. Souligner notre part de responsabilité dans les institutions et les sociétés telles qu'elles existent est destiné non pas à nous accuser, mais à mettre en évidence notre liberté ancienne et à en appeler à l'usage nouveau de cette même liberté. Puisque je suis capable de lire sur un panneau tour 200 km, peut-être est-ce que je serai capable de lire le contrat social. C'est un tout petit peu plus difficile, mais c'est la même démarche. Si on m'y aide, c'est mieux. Sinon, je peux découvrir moi-même que la Boétie, c'est facile à lire et ça dit des choses importantes. Si je me remue, j'ai 15, 16 ans, 14 ans, je suis dans un collège, un lycée, je peux très bien tomber sur un gars qui me dit « La Boétie, vous connaissez ?» La Boétie, oui, la Boétie, il va voir, il est sauvé. Tout est là. Donc, première conversion indispensable pour la création du précédent voyage vers le haut pays. Qu'est-ce qui est indispensable? Savoir que nous sommes libres. Nous pouvons quoi? D'abord, nous pouvons nous convertir. Il faut bien qu'on ait tout changé, parce que le haut pays dont il est question, et puis l'expérience intense et substantielle. Tout à l'heure, j'ai pas encore prononcé le mot intense. Intense et substantielle. Il va falloir y arriver, elle n'est pas commode. Mais pour y arriver, il va falloir cet acte premier, cet acte préliminaire de conversion, de reprise de soi, de reprise en main de soi-même. Mais oui, je suis plus fort que je ne le croyais. J'ai beaucoup plus de puissance et de possibilités que je ne le croyais. C'est ma nature, chacun est sujet. Deuxième conversion, autrui. Conversion à autrui, évidemment. Tentation ordinaire de tout le monde, vous regardez autour. Les gens qui attendent l'autobus, les gens dans le métro, les gens dans une salle où se font électroniquement les cours de la bourse, regardez-les, tous, spontanément, visent à utiliser autrui, à dépasser, à utiliser. Compétition, instrumentalisation. Tout le monde connaît. Et tout le monde dit, oui, c'est pas bien, changeons les institutions. Et puis, on va retrouver la même instrumentalisation. C'est-à-dire que les révolutionnaires, et n'importe quel révolutionnaire, pas seulement les soviétiques, hein, les Français aussi, Robespierre, conversion, on change tout, et puis on coupe quelques têtes en passant, pourquoi pas pendant qu'on y est. On a changé un peu, mais pas complètement. Donc, conversion à autrui. C'est le deuxième moment indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire conversion à autrui? Là, on va aller vite parce que c'est plus clair. Au lieu de considérer autrui comme un être qui est un objet utilisable, et donc, au lieu de le considérer comme un corps, un petit peu plus intelligent qu'un robot, il peut prendre des initiatives, mais il faut que je commande les initiatives. C'est bien si je peux commander les initiatives de ces robots-là. Et puis, on a une usine. Et on monte une chaîne de fabrication d'automobiles. Et on utilise bien les compétences des robots. Des robots humains, parce qu'ils ont l'avantage de venir à l'heure. Etc, etc, vous connaissez. Instrumentaliser autrui dans l'ordre économique, c'est quelque chose de clair, que tout le monde comprend, que tout le monde combat, que la plupart soutiennent en fait, puisque les gens vont travailler à l'usine, en disant « je suis obligé ». On n'est pas obligé. Oui, mais si les autres... Ben alors, il n'y a qu'à travailler avec les autres, à ne pas aller en usine. Oui, mais de l'autre côté de la planète... Eh ben, mettez-vous en relation avec l'autre côté de la planète. On peut aller lentement. Bon, mais revenons à des choses plus simples. Dans les rapports interindividuels et non plus dans les rapports sociaux, trop souvent... Alors là, cette fois, lisez Sartre. Trop souvent, les relations entre les gens, c'est les luttes des libertés. C'est moi qui commande. Si tu m'aimes, c'est moi le principal. Et si tu m'aimes, prends garde à toi parce que c'est moi qui commande. Et puis d'ailleurs, c'est moi qui te ferai souffrir. C'est moi qui... Aimer, c'est combattre pour sa liberté. Croit Sartre. Puis tout le monde croit ça. Tout le monde est formé à Schopenhauer et Hegel. Mais la dialectique du maître et de l'esclave, tout le monde cherche à être le maître. Oui, mais si l'esclave peut se révolter, oui, bien sûr, il reprend sa liberté, puis il devient le maître, et après on passe à quoi? Nous dit Hegel, ah ben, à l'État. Ensuite, ça sera l'État qui va imposer son ordre. Eh bien non. Ne faisons pas comme ça dans la vie privée, c'est-à-dire les combats, les conflits. Comprenons que le rapport à autrui peut être positif et créateur. Le rapport à autrui peut être positif et créateur en affirmant l'autre comme centre. Au lieu de faire de l'autre donc un robot utilisable, vu de l'extérieur et à qui on demande, au lieu de demander « que puis-je faire pour vous ?», on demande en réalité aux gens « que pouvez-vous donc faire pour moi ?», on les utilise parce qu'on les considère comme des instruments dans notre paysage dont nous sommes le centre. La conversion consiste à nous décentrer, à savoir que l'autre aussi est un centre. Un centre pour sa vie, un centre pour sa jouissance de vivre, ses préoccupations, son activité, sa créativité. Une fois que j'ai posé l'autre comme centre, il est clair que je le pose comme un centre équivalent à moi-même qui suis centre, c'est-à-dire libre et valable. Non seulement libre, mais valable, comme moi. Il n'y a plus de raison de conflit. Et ici, nous avons fait l'expérience, c'est pourquoi nous pouvons en parler aisément de tout cela. Nous avons fait ici l'expérience de l'absence de conflit, une société sans conflit. Nous avons trouvé une société sans conflit, nous avons construit, sans l'avoir voulu, une abbaye, une sorte d'abbaye. Bon, vous me direz, oui, mais on n'est pas propriétaire. Oui, ça sera difficile, hein, être propriétaire de Cerisy, ça serait difficile. Mais on peut être propriétaire d'une masure. Vous prenez une masure au Massif central, sur un haut plateau, près d'un torrent, quelques poutres, quelques, je ne sais pas ce qu'on met, comment ça s'appelle, les choses qu'on met sur les toits et qui ne sont pas des tuiles, des lauzes, n'est-ce pas? Ben on peut, si vous voulez. Vous pouvez le faire. Pour ça, il faut être jeune, comme vous tous. Pour ça, il faut être jeune. Mais vous pouvez le faire si vous avez envie. On n'a peut-être pas envie de faire une ferme collective. Moi, j'ai vécu 3 jours en kibbutz. Bon, c'est bien pour l'esprit, le kibbutz. Personne n'exploite personne, il n'y a pas d'argent, rien. Mais ce n'est pas pour des raisons économiques, comme on veut nous le faire croire, la concurrence internationale, que les kibbutzim disparaissent. C'est tout simplement parce que c'est ennuyeux. Parce que c'est pas... C'est juste, mais c'est pas une vie, c'est juste mathématiquement. Personne n'exploite personne de plus, il n'y a pas de salaire, on est sûr, on est tranquille. Il n'y a pas de salaire, et puis c'est au comité central qu'on décide si on aura dans 3 mois, oui ou non, une petite télévision de 25 centimètres, chaque télévision. Oui, bon, d'accord, c'est la justice. Mais ça, c'est vrai et valable lorsqu'on démarre et qu'on part au désert, qu'on a du sable et des cailloux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ça. Et après, ben, après, on s'est enrichi ensemble et on va refaire. Alors, ce qu'il fallait faire après les kibbutzim, ce qu'il fallait faire, c'est inventer une autre forme de propriété publique, sinon collective. Il fallait inventer autre chose, ça n'a pas été fait. Parce qu'une fois qu'on a quitté les coopératives comme les kibbutz, on est retombé dans le système capitaliste. Donc laissons ça, sachons que nous sommes responsables de tout, et surtout que la deuxième conversion est impérative. Il faut vraiment considérer autrui comme un sujet. Alors, d'autant plus que, si autrui est un sujet, le rapport qu'on va avoir avec lui sera un rapport réel. Si autrui était une mécanique et un déterministe commandé par son passé, le rapport qu'on aurait avec lui serait un rapport illusoire. On aurait un rapport avec un robot historiquement fabriqué. Ils ne se rendent pas compte de ça, les déterministes. Le rapport avec quelqu'un qui dépend entièrement de son histoire est le rapport avec une mécanique. Alors que là, je suis en train de dire que la conversion consiste à poser l'autre comme centre d'initiative, donc comme liberté. Et à comprendre la chose suivante, tout à fait paradoxale, complètement paradoxale, mais pourtant elle est vraie. À comprendre la chose suivante, c'est que autrui, avec sa personnalité, il a une personnalité, pas un caractère, des traits de caractère, mais une personnalité, une manière de penser, de vivre. Eh bien, cette personnalité, il en est la source. C'est ça le paradoxe. Comprendre que les gens ont une personnalité, non pas parce qu'elle est reçue, leur passé, leur enfance, leur famille, leur éducation, mais parce qu'ils l'ont voulu. Ils ont choisi les influences, ils ont lutté contre telles influences, ils en ont accepté d'autres, ils en ont inventé d'autres, ils ont inventé des choses, ils ont refusé des choses, ils ont accepté, inventé, refusé, ce sont les activités de la liberté. Si on affirme que l'autre est capable de toutes ces activités qui sont tout à fait légitimes et créatrices, alors à ce moment, on va pouvoir entrer avec lui dans une relation de sujet à sujet, une relation de réciprocité. La conversion, c'est le passage, la deuxième conversion, c'est le passage de la réversibilité, étant en miroir, en demi-miroir. On va considérer autrui comme la balle de ping-pong considère la raquette de l'autre, et l'autre va considérer avec sa raquette la balle de ping-pong comme cela qu'il faut renvoyer. Du même au même, les luttes quotidiennes et les conflits, la concurrence, la compétition, c'est le même au même. Vous me frappez, je vous frappe, vous me donnez, je vous donne, et je ne vous donne que si vous me donnez. On a un contrat, le commerce ou la guerre. La guerre, le commerce et les lois, oui, bon, mais ce n'est pas la réciprocité. Et la réciprocité, c'est une affirmation. L'affirmation de la réciprocité et le fait de la réciprocité vécue est une affirmation riche, très riche. Elle consiste en 4 affirmations. La réciprocité consiste à affirmer l'autre comme sujet, à reconnaître et à prendre en compte l'affirmation de moi comme sujet par cet autre. Je l'affirme, je sais qu'il m'affirme. En même temps que je l'affirme, je sais qu'il m'affirme. Si je ne sais pas qu'il m'affirme, ou si je sais qu'il ne m'affirme pas, un enfant par exemple, par rapport à ses parents, à un moment donné, je t'interdis de fumer, si je fumerais, bon, d'accord. Si je sais que l'autre ne m'affirme pas, je peux très bien le savoir. Et je peux très bien, moi, décider de donner sans attendre. Il peut y avoir générosité sans réciprocité. La réciprocité va être la conscience en moi et de mon mouvement et du mouvement de l'autre. Mais cette conscience n'est pas la conscience d'un dû. L'autre ne me doit rien. S'il me devait, ce serait un contrat commercial ou une guerre. Dans la vraie relation, nous ne sommes ni dans un contrat, ni dans une guerre. La réciprocité est l'affirmation sans devoir et sans attente. L'affirmation du retour. Pas l'attente, la constatation du libre retour de l'autre vers moi. Mais en même temps, il se fait deux autres affirmations chez l'autre. D'abord, il m'affirme librement et il sait que je l'affirme. Il y a pleine conscience là qui s'échange. Ces échanges, ces affirmations croisées sont des possibilités, vous allez comprendre le mot qui a l'air difficile, il ne l'est pas, sont des affirmations ontologiquement possibles. Elles appartiennent à la nature humaine, à la conscience. Parce que la conscience étant en miroir, elle peut poser autrui comme autrui et elle peut même aller plus loin. Là, on va plus loin que tout à l'heure. La spécularité première, c'est la découverte que autrui est un autrui, une conscience. Puis on n'entre pas forcément dans la réciprocité, mais on sait que c'est une conscience humaine. N'importe quel primitif, à n'importe quel moment de la préhistoire, sait faire la différence entre un être humain et un animal. Puis tant qu'il ne le sait pas, c'est que l'humanité n'a pas encore émergé. À un moment, elle émergera, il y a des animaux et des humains. Ça, c'est la première spécularité. Alors, la spécularité suivante, ça va être l'invention du contrat. Et la spécularité ultime, c'est l'invention de la réciprocité. Le don croisé, qui n'est pas un devoir, ni une attente, mais une expérience. Et pas une expérience obscure, une expérience claire. Le sentiment évident que, dans l'évidence et dans le présent, chacun affirme l'autre en même temps que lui-même. En même temps que lui-même. N'allons pas croire, comme Lévinas, qu'on doit, par moralité, charité, religiosité, et parce qu'on a lu la Torah, n'allons pas croire qu'il faut se faire l'otage d'autrui. Évidemment non, nous sommes l'équivalent d'autrui. Mais n'allons pas croire non plus que notre tâche principale, c'est bien d'affirmer nos droits, notre être, nous sommes l'équivalent d'autrui, il ne faut pas qu'on marche sur les pieds, etc. Toutes les histoires qui mènent au conflit. J'ai des droits, je n'ai que des droits. Ça veut dire, vous devez vous incliner, me respecter, me donner. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, la réciprocité. En plus, vous savez très bien ce que c'est l'amitié. L'amitié vraie, c'est ce que je viens de décrire. Je viens de décrire un peu en détail l'amitié vraie. Il faut avoir fait cette conversion. C'est-à-dire savoir, dans la première conversion, j'ai appris que je suis libre et créateur. Et je pourrais créer autrement. Dans la deuxième conversion, je découvre que l'autre n'est pas un ennemi par essence. Même l'autre est plus précieux encore que je l'imagine d'abord. Je n'ai sens. Maintenant, il faut aller plus loin que par autrui. Si je suis seul au milieu des robots, je n'aurai pas beaucoup de signification. À quoi servira ma liberté? Je suis libre de faire n'importe quoi au milieu de robots. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce délire de tyran? Pour que ma vie ait un sens et toutes mes opérations intellectuelles, il faut que l'autre soit là. Il faut que je tienne à l'autre, c'est-à-dire que j'affirme sa valeur. Il faut maintenant que je le reconnaisse. L'affirmation d'autrui, ce n'est pas seulement l'affirmation qu'il est un sujet en général, centre d'initiative. Qu'il est un sujet en général valable. À ce titre, il est libre et donc valable. C'est la première forme de la reconnaissance. La seconde forme de la reconnaissance, dont on parle rarement, c'est la reconnaissance de la valeur d'autrui comme personne. pas comme personne au sens des personnalistes, il est une conscience libre, capable de responsabilité et de distinction du bien et du mal. Je ne parle pas de tout ça, du tout. L'affirmation de la valeur de la personnalité d'autrui, c'est l'affirmation de la valeur pour moi, de la valeur admirable pour moi, de la personnalité d'autrui, personnalité dont, tout à l'heure j'ai pris la précaution de souligner, dont je sais qu'il est responsable. Il est la cause de sa personnalité. Si le style de vie de l'autre me plaît ou si je l'admire, si je le reconnais, c'est que je l'admire. Si je le reconnais comme mon ami, c'est que je sais que ce qu'il fait a de la valeur, non seulement de la valeur, mais une valeur que j'aime. J'aime la valeur de cela qu'il est, et pas qu'il est mécaniquement, parce qu'il avait des parents formidables. Non, parce qu'il est par lui-même. Souvenons-nous, chacun est responsable de lui-même. Alors au moment de l'amitié, il faut en tenir compte. Non seulement je suis responsable de moi-même, mais l'autre aussi. Responsable de quoi ? Pas du tout de ses actes dont je vais l'accuser, il ne s'agit pas de ça, le moins du monde. Responsable de lui-même, il est la cause de lui-même. Il m'offre des créations dont je sais qu'il est le créateur. C'est formidable, je n'aurais pas pu créer ça, alors que c'est admirable. Voilà pourquoi de temps en temps, on a envie que les générations successives s'offrent des choses. C'était la deuxième conversion indispensable avant le grand voyage. Et troisième conversion, que je vais appeler eudémoniste, ou éthique, ou ontologique. On va l'appeler eudémoniste pour plus de clarté entre nous. La troisième conversion, c'est la chose suivante. On va renoncer à la conception tragique de l'existence. Parce que la conception tragique de l'existence consiste à dire qu'au premier plan de notre vie est notre mort. Selon Heidegger, ce qui donne sens à la vie, c'est notre rapport à la mort. C'est notre rapport à la mort qui nous permet de gagner l'authenticité, c'est-à-dire de distinguer ce qui est important de ce qui n'est pas, c'est parce que nous nous rapportons à la mort. Schopenhauer, non seulement il serait bon que nous mourions, même si ce n'est pas la peine de vous suicider, dit Schopenhauer, je vais vous dire des choses tristes, dit-il, mais ce n'est pas la peine de vous suicider, ça ne sert à rien. Alors voilà comment ça se passe chez Schopenhauer. L'essence de l'homme, c'est le désir, et le désir, c'est l'incomplétude. Soyez tranquille, vous ne pourrez pas combler votre désir, nous dit Schopenhauer, avec les bouddhistes. Vous ne pourrez pas combler votre désir. C'est pour ça que la vie humaine est tragique. C'est pour ça que vous êtes dans le malheur. Vous ne pouvez pas vous en sortir. La seule chose que vous puissiez faire, dit Schopenhauer, c'est de calmer votre volonté. Volonté qui veut dire désir, qui veut dire désir de vivre. Vous pouvez calmer la volonté, rester dans la sérénité grâce à la sagesse, vous ne pouvez rien faire de plus, vous ne pouvez pas aller au-delà. Schopenhauer, Freud, Sartre, le tragique contemporain. Alors la suprême trouvaille de nos contemporains tragiques, c'est le tragique dans la joie ou la joie dans le tragique. J'ai même oublié le nom de l'auteur, vous allez me le rappeler. Comment il s'appelle ? Clément Rosset, vous avez raison, merci. La joie, oui, mais dans le tragique, nous sommes conscients, du tragique et nous sommes joyeux. Vous êtes joyeux du tragique, c'est des plaisanteries, ça. C'est du verbiage, c'est de la fausse philosophie. Quelqu'un qui est dans le tragique n'est pas joyeux. Le tragique, c'est la perte de quelqu'un. Et c'est même pas tragique, c'est dramatique. C'est-à-dire source de souffrance qui peut être fatale. Il existe des souffrances fatales. Elles existent, ces souffrances. Il y a des gens qui meurent dans notre entourage. Il y a des gens qui meurent dans notre monde, qui meurent de faim. Il y a des drames durs. Ben, toute la société est un drame en marche. Mais pas tragique, c'est-à-dire pas nécessaire, pas voulu par quelqu'un. Pas inéluctable, un tragique c'est un malheur inéluctable. Ou alors on emploie les mots n'importe comment. Pour la grande souffrance, je dis drame. Mais j'ajoute surtout, et surtout à propos du désir, il n'est pas vrai que l'essence du désir soit d'être insatisfait. Tout le monde le dit actuellement, tout le monde le croit. N'importe lequel des individus autour de nous que vous interrogez qui n'est pas philosophiquement très très travailleur, n'importe qui vous dira, oui, mais on est toujours insatisfait, on a toujours des désirs, on n'est jamais content, etc. Sous-entendu, c'est tragique, puis on sera toujours malheureux, puis c'est comme ça, vous savez, c'est ça la vie. C'est faux, faux, faux. Faux pour chacun. En réalité, si c'était vraiment ça la vie, à moins d'être né esclave, il aurait arrêté. Si l'humanité savait, l'humanité, c'est-à-dire tous, individuellement, tous, sans exception, si tous, et non pas tous moins deux, mais tous, savaient que on ne peut accéder à aucune satisfaction durable et valable, eh bien tous auraient arrêté de vivre et l'humanité aurait disparu. L'humanité ne vit que parce qu'elle sait qu'au-delà, il y a quelque chose. Au-delà du présent, il y a un avenir, et dans cet avenir, il peut y avoir quelque chose de satisfaisant. Quoi ? Ben peut-être tout simplement déjà des choses qu'on a vécues. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas se souvenir qu'ils ont vécu des choses ? Parce que, pessimistes comme ils sont, ils disent « Oui, mais même quand c'est bien, c'est tragique que ça ait disparu. Ça disparaît toujours, le temps emporte tout. » Ben, le temps emporte tout, sauf nous, au présent. Il n'y a qu'à le recréer, ce passé. Avec un tel, avec tel autre, dans tel lieu, dans tel autre. La vie, elle est constamment créatrice d'elle-même. Non seulement nous créons des œuvres, mais nous créons nous-mêmes, et la vie se crée elle-même. C'est vrai que la vie se crée elle-même. Elle est autocréatrice, elle est même autoconstituante. Même la vie élémentaire est autoconstituante. Alors, à fortiori, une conscience, une personnalité. Donc, troisième conversion, nous devons combattre l'esprit tragique du temps. Et donc, renoncer à croire que la vie est destinée à la souffrance. Renoncer à croire que la souffrance est inéluctable. Renoncer à croire surtout ce que les religions disent, le christianisme ancien peut-être, christianisme, bouddhisme, disent à savoir que la souffrance est non seulement inévitable mais rédemptrice. Elle est utile, grâce à la souffrance, vous vous renforcez, etc., etc. C'est des histoires. Une souffrance qui est vraie est destructrice. Une souffrance qui vous enrichit, qui vous fait sourire, qui vous fait entrer dans la joie, c'est pas une souffrance, vous avez fait semblant. Une vraie souffrance, elle dit « j'arrête ». Ou j'arrête de vivre, ou j'arrête la souffrance. Si on vous arrache une dent sans anesthésie, c'est pas vrai que vous allez dire « c'est tragique, mais c'est drôlement bien ». C'est des plaisanteries, tout ça. C'est pour essayer de rattraper la donne, pour expliquer que, alors que tout le monde dit que tout est noir, on s'aperçoit que tout le monde est en train d'exister et de lutter avec acharnement pour la fin du mois. Soyons sérieux. Le désir n'est pas condamné à l'insatisfaction. Reprenons maintenant, en ayant renoncé à la pression des pensées tragiques, revenons donc nous librement sur le désir et constatons une chose, son essence n'est pas d'être le manque. J'ai soif, j'ai besoin d'eau. Oui, manque. Mais je boirai, et il n'y aura plus de manque. L'essence du désir n'est pas le manque. L'essence du désir, c'est le manque, puis le manque comblé. Parce qu'imaginez que, isolé sur un radeau en pleine mer, n'importe quoi, vous ayez soif, vous ne pouvez, et que vous ayez la santé fragile. Une santé fragile. Vous ne pouvez pas boire l'eau de mer. Vous le savez. L'eau de mer va vous rendre malade et vous allez mourir avant l'heure. Vous savez que l'eau de mer ne vous permettra pas, d'arriver à satiété. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne buvez pas. Si l'on savait que satisfaire un désir est une faute grave, on ne le satisferait pas. Vous ne buvez pas l'eau de mer, même si vous avez soif. L'humanité cesserait d'exister si elle savait que les désirs sont vains. Il y a des philosophes, les anciens, qui s'évertuent à nous dire « Mais vos désirs sont vains. Vous cherchez des plaisirs, vous cherchez des honneurs, vous cherchez des richesses. Tout ça ne vaut rien. Arrêtez, sous-entendu, entrez au couvent. » Ou soyez bon chrétien, bon musulman, bon juif, arrêtez. Spinoza dit, ne soyez pas maladroit comme ça, vous voyez pas que vous perdez votre temps avec le désir, les honneurs, les richesses, je sais pas quoi, les plaisirs, les honneurs, les richesses. Mais vous avez raison de désirer. Vous allez voir, il y a des joies, elles sont formidables. Seul un Dieu jaloux et envieux, c'est, je cite, peut se réjouir de nos tristesses. Ça n'est pas la tristesse et la souffrance qui sont l'essence de l'homme, c'est le contraire, c'est la joie. Car, maintenant nous l'avons, l'essence du désir, c'est le manque qui arrive à un manque comblé. Qu'est-ce qu'un manque comblé? Un sentiment de plénitude. Qu'est-ce qu'un sentiment de plénitude pour une conscience? C'est la joie. Et ce sentiment de plénitude est en même temps le sentiment d'un accroissement d'être. La joie est un accroissement d'être, un accroissement non seulement de l'affirmation de soi, mais de la validité de soi. C'est un accroissement de notre estime de nous-mêmes, pas égoïste, pas égoïste, pas égotiste. C'est quand même un accroissement de la valeur de nous-mêmes, de notre affirmation. Et cet accroissement est en même temps un plaisir, le désir comblé. Il y a plaisir et joie. Dans plaisir et dans joie, il y a non seulement plénitude, non seulement conscience. L'inconscient est une étrange histoire pour moi. Le plaisir est conscience de plaisir. Le désir est conscience de désirer. Alors au lieu de désirer bien, mal, n'importe quoi, n'importe comment, on fait sa conversion, on réfléchit, on prend tout ça en main et on organise une vie. Donc ça, nous comprenons, nous savons. Eh bien, le plaisir, la joie à laquelle nous arrivons après la conversion, c'est-à-dire avec la réflexion, avec notre indépendance, avec la réciprocité, cette joie à laquelle nous arrivons, en outre, non seulement elle est une joie vécue, mais elle est une joie entérinée. Nous sentons en même temps que nous avons raison d'être dans la joie. Nous avons raison pour deux raisons. D'abord, parce que nous savons pourquoi. L'amour, par exemple, est une joie accompagnée de sa cause. La cause, ici, c'est le mot de Spinoza, on dirait accompagnée de sa raison d'être. Et sa raison d'être, c'est l'autre qui est là. C'est l'autre qui est là. L'amour est une joie qui se comprend. Elle sait que c'est grâce à l'autre que la joie est amour. Et que l'amour est joie. Donc il comprend. Mais il comprend une deuxième chose, le désir qui entre dans la joie. Il comprend qu'il a non seulement les raisons motifs, mais les raisons valeurs. Non seulement dans la joie, on sait pourquoi on est dans la joie, mais en plus, on ressent, j'ai raison. C'est bien d'avoir cette joie. C'est une joie que je veux et que j'accepte. Imaginez le plaisir, un plaisir qui soit complètement plaisir, et donc complètement pensé. Le plaisir est un plaisir qui consiste à dire aussi, c'est bien que je sois dans ce plaisir. Nous avons raison, c'est bien. Non seulement c'est plaisant, mais c'est juste. Non seulement c'est un événement, mais il fallait. Nous voulions. C'est-à-dire que le plaisir est un acte de la conscience, et même de la conscience éthique. Imaginez le contraire, imaginez quelqu'un qui entre dans un plaisir et qui se dit « c'est terrible quand même, c'est quand même pas bien ça. Bon, on vivait, mais vraiment, allez, il faut que je rentre. C'est pas bien. Alors, j'éprouverai plus de plaisir. » Et on oublie de nous dire, les psychanalystes oublient de nous dire que ce qu'ils appellent le « surmoi » est le jugement libre du sujet. C'est le sujet qui veut ou ne veut pas admettre, entériner, juger, bon, son plaisir et sa joie et sa vie. Alors comme il se condamne, il s'immobilise. C'est-à-dire que les psychanalystes oublient le sujet. Et nous, au contraire, nous savons, nous avons fait notre conversion eudémoniste, nous savons que la joie est bonne. Et comme nous avons fait l'expérience des joies maladroites, trop de Bourgogne, par exemple. Ça, c'est arrivé. On a fait l'expérience des joies maladroites. Après, on fait attention. On met de l'eau dans son vin, dans son cidre. Et puis, on maîtrise comme ça. Donc, conversion eudémoniste, ça veut dire ceci. Non seulement, je ne suis pas condamné au malheur, mais je suis voué au bonheur. Voué, c'est tout simplement un mot facile. Je suis voué. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aurait donné une vocation. Allez, vous allez être heureux. C'est pas comme ça que ça se passe. ce qui se passe est plus modeste. Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous n'êtes pas condamné, ni à mort, ni à la souffrance. Vous n'êtes pas condamné. Ce qui est le plus proche de vous, de votre être, de notre être à tous, c'est l'accès à la joie. Mais ça se construit. Alors là, oui, le bonheur est votre tâche. Pas une vocation qui viendrait d'ailleurs ou parce que vous seriez élu. Non, vous vous êtes désigné vous-même, en même temps que autour de vous, ceux qui sont autour de vous, vous avez choisi, comme ayant à construire un bonheur. Le bonheur se construit. Et se construit, ça veut dire pierre à pierre, avec les trois conversions, le travail constant, la vigilance, l'estime de soi et de l'autre, la vigilance constante, la mise en œuvre constante de la conversion, du renversement, de la lucidité, la résistance aux choses faciles, la publicité, les idées fausses, le journalisme, les préjugés. Il faut une résistance constante, la possibilité aussi, ça a l'air d'être un grand mot, mais vous savez bien, vous l'avez tous vécu individuellement, le courage. Parfois, c'est pas commode, tout ça, quand même, de lutter contre, de renverser et de s'engager et de partir en route. Donc, se mettre en voyage exige une préparation qui est difficile, un cheminement qui est difficile, long, lent. Il faut une patience, il faut un courage, parce qu'il faut lutter, naturellement, parce que vous êtes constamment agressé par les idées toutes faites. Imaginez qu'un jour, vous soyez un peu plus fatigué qu'un autre jour. Ça peut arriver. Mal nourri, vous êtes fatigué. Mal nourri, on est fatigué. Et quand on est fatigué, on croit découvrir qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles dans l'existence, d'obstacles sociaux. Les déterminismes, les difficultés, c'est tout simplement qu'on a sauté un repas ou que le repas fut mal agencé. On est mal nourri, on est fatigué, mal nourri un jour, mal nourri deux jours. À la fin, le troisième jour, là, vous êtes dans Schopenhauer. Alors, il faut bien se nourrir, point, puis après on n'y pense plus. On le sait, on n'y pense plus, on le fait, on n'y pense plus. Après, on fait d'autres choses. On va à l'opéra, on fait de la peinture, de la musique. Alors, à la fin, on peut dire qu'on arrive à la joie active et au tout autre. Nous y voilà. Nous voilà dans le tout autre. C'est l'entrée dans un nouveau monde. Hein. C'est tout un monde maintenant qui est changé. Nous voyons le monde autrement. Non seulement nous voyons le monde autrement, puisque nous savons que c'est nous qui lui donnons ses couleurs et ses formes, ses significations, ses forces d'attirance et de répulsion, c'est nous qui le faisons. Nous savons ça, ça nous détend, et nous accroissons notre estime de nous-mêmes, et en même temps, ayant découvert la liberté, ayant découvert l'amour de l'autre, notre amour pour l'autre et l'amour de l'autre pour nous, ayant découvert tout ça, nous savons que l'avenir est possible. Mais en même temps, ayant découvert des choses tellement neuves, tellement nouvelles, et sachant que nous allons être créateurs dans l'avenir comme nous le fûmes mal, mais nous fûmes créateurs dans le passé, dans l'avenir nous allons l'être, mais heureusement, au lieu d'avoir eu une liberté malheureuse créatrice et dépendante de ce qu'elle a créé, nous allons avoir dans l'avenir une liberté heureuse, créatrice et indépendante des préjugés de la société. Indépendante vraiment. C'est-à-dire qu'il faut à la fois lire Descartes, Spinoza, et pas s'arrêter là. Descartes, Spinoza, Sartre, et la suite. Et la suite de la suite, c'est vous. La suite de la suite, c'est vous. Alors, nous entrons dans le tout autre. Qu'est-ce que c'est le tout autre? C'est ce qui est, vous le comprenez bien dès maintenant. C'est un style de relation à autrui complètement différent du style traditionnel qui est la compétition et le conflit. Ni conflit, ni compétition, ni passivité aux idéologies ambiantes, devant les idéologies ambiantes, ni religion, ni provocation. Le tout autre, vous le voyez, est d'abord complètement différent par l'affirmation des sources de notre monde. Nous savons où sont les sources, l'autre et nous, ensemble, mais ce sont des vraies sources créatrices. Pas des gens qui ensemble se rencontrent et disent « on va lutter ensemble dans cette vie difficile ». Non, ils savent qu'ensemble, ils vont créer autre chose. Il y a un changement radical, vous l'avez compris, dans les contenus philosophiques, dans notre attitude, dans les contenus philosophiques du monde, dans les contenus philosophiques des valeurs que nous allons poursuivre. C'est complètement différent. Mais il y a quelque chose d'autre aussi. Une distanciation poétique. Alors là, je vous conseille de lire la page 27 des Actes et la page 135 et la suite, c'est-à-dire la page 27 d'abord, l'existence substantielle au début et tout à fait à la fin la conclusion, page 135 et suivante, et puis ensuite de vous mettre à écrire chez vous. Voilà. Merci.